Weber pour point central, permet à Byron de jeter la rondelle dans le territoire offensif. Dermott a perdu devant Byron. Revirement, passe à Kotkaniemi, le lancer est bon! Gaspari! Kotkaniemi!
Kotkaniemi, hey, que ce sourire était beau à voir, le sourire de ce joueur de hockey, le jeune Kéké pour les intimes, qui a marqué le but, qui a fait toute la différence et qui permet ce soir de rêver peut-être passer au prochain tour. C'est un septième match donc pour le Canadien de Montréal qui va aller disputer ça à Toronto. Et ce qui est intéressant, c'est que le septième joueur va être admis à l'Arena Scotiabank. Il y a 550 personnes qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Donc, ce sont des gens doublement vaccinés qui auront le droit d'assister à ce match assez décisif où ça passe ou ça casse, exactement, comme le titre La Presse Plus. Avec nous, Philippe Quentin, journaliste à La Presse, collaborateur au 98.5. Bonjour, Philippe.
Salut, Isabelle.
Il y aura également avec nous Jérémy Filosa, journaliste sportif au 98.5. Bonjour, Jérémy.
Bonjour.
Bon, alors, tous les deux, je veux que vous me disiez, là, est-ce que c'est vraiment réaliste de croire que le Canadien puisse gagner ce premier tour des séries?
Ah oui, c'est clairement réaliste parce que je pense que les Maple Leafs de Toronto font face à tellement de pression. Je lisais les articles, Isabelle, en provenance de Toronto, que ce soit dans le Globe and Mail, Toronto Sun. Tu sais, le jugement est déjà presque annoncé en cas de revers. Là. Ça va être lapidaire parce qu'il y a deux joueurs exceptionnels avec les Maple Leafs de Toronto à l'attaque. Austin Matthews et Mitch Marner, ils ont fait des ravages en saison régulière et là, sont complètement au neutre dans cette série-là contre le Canadien. Alors déjà, tous les regards sont tournés vers eux. C'est pour ces deux jeunes joueurs la chance de prouver qu'ils sont capables de d'être à la hauteur de l'enjeu de ce soir. Mais si ce n'est pas le cas, si le Canadien l'emporte, puis les deux sont encore à peu près rayés de la feuille de pointage, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui va être accolé à côté à eux. Puis c'est un mot qui est tout le temps grave dans le sport, c'est celui d'être un choker. Et déjà, ça a été employé dans un article que j'ai vu à propos de l'équipe dans son ensemble. Et ça, pour un athlète, il n'y a rien de pire que ça. Alors donc, la pression est très, très forte sur les Maple Leafs. Et si Price fait des miracles en première période, ben, le Canadien pourra en profiter.
Ah, il était quand même assez incroyable
samedi. Là, assez,
c'était,
oui.
Écoute, je regardais même les statistiques. C'était intéressant parce qu'en prolongation, 82% du temps, les Leafs étaient dans son aire de jeu à lui. Là. Il n'a pas arrêté. Puis écoute, il levait le gant pour arrêter. C'était de toute beauté.
Ouais.
C'était vraiment là. C'est assez exceptionnel de voir ça. Jérémy, comment tu vois la suite des choses? Surtout la question de la pression. Parce que là, bon,
ouais.
Philippe nous dit la pression est toute sur les Leafs. Elle est quand même aussi un peu sur le Canadien. Là.
Un petit peu, oui, mais pas comme à Toronto. Parce que, on va se le dire, si Canadien ce soir se bat et finit par l'échapper, on sera tous déçus. Mais on va dire quoi? Ils se sont bien battus contre la meilleure équipe de la division. Mais à Toronto, s'ils perdent, écoutez, là, ça fait tellement longtemps qu'on attend des succès à Toronto en séries éliminatoires. Ils ont quand même une très bonne équipe. Logiquement, c'est une équipe qui aurait dû faire au moins quelques tours en série. Donc oui, la pression sera définitivement sur eux. Maintenant, il y aura un avantage pour Austin Matthews, notamment parce que ils sont à domicile. Donc l'entraîneur pourra choisir quand l'utiliser, parce qu'on a vu même qu'à Montréal, samedi, dès qu'il y avait, par exemple, un hors-jeu refusé et que les Maple Leafs avaient le choix d'envoyer Austin Matthews sur la patinoire contre quelqu'un d'autre que Philippe Danault, on le faisait. Alors, c'est sûr que ce soir, ça, ce sera pas à l'avantage du Canadien, parce qu'ils sont chez eux, les Maple Leafs de Toronto. Mais écoute, dans un match, là, un septième match, tout peut arriver et on peut pas dire que dans un seul match, une équipe est vraiment nécessairement plus avantageuse qu'une autre. Là.
Mm-hmm. Je vais en profiter pour donner nos numéros de téléphone aux fans qui nous écoutent et à tous ceux qui suivent ces séries du Canadien. 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Un peu partout au Québec, sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous y croyez là, à ce que Montréal gagne ce soir contre Toronto. Évidemment, bon, on parle du septième joueur parce qu'on en a parlé ensemble. Hein. Philippe, on s'en est parlé vendredi.
Ouais.
Dit le septième joueur qui fait souvent une différence, surtout à la maison. Dans ce cas-ci, on va permettre à 550 personnes à Toronto, là, ceux qui ont eu deux doses de vaccin, d'assister à ce match. Est-ce que, bon, on a vu 2500, ça fait du bruit, hein? On savait que 22 000, ça en faisait, mais même 2500, ça en a fait beaucoup. C'était fabuleux de voir ça. Ils étaient bien chanceux, les gens qui étaient là. 550, ça peut-tu être assez pour faire comme quelque chose comme un septième joueur, en tout cas avoir un effet?
Bah, écoute, c'est pas beaucoup dans un amphithéâtre, là, qui, ouais. C'est ça, dans une enceinte qui contient 19 000 sièges. Puis, tu sais, on pourra pas les mettre tous ensemble non plus parce qu'il va falloir observer une distanciation sociale. Alors, ils vont être disséminés un petit peu partout dans l'amphithéâtre. Donc, je pense, oui, ils peuvent faire du bruit, puis ils vont en faire. Puis, ouais. Bon, le système de son va contribuer à mettre un peu d'ambiance. Les haut-parleurs vont être au max là-bas aussi. Mais, si ça fait pas un bruit immense, j'ai l'impression que sur le plan psychologique, c'est quand même quelque chose. Parce que quand les joueurs des Maple Leafs vont entrer sur la patinoire au début du match, ben il va y avoir des gens qui vont se lever, qui vont les applaudir, qui vont jeter des drapeaux, des bannières. Puis ça va leur faire du bien parce qu'ils ont vu comment les partisans du Canadien ont accueilli l'équipe samedi soir au Centre Bell. Alors là, t'as pas autant de gens, mais tu dis au moins j'en ai un peu. Puis moi, je pense que ça peut pas nuire. Je pense pas que ça va être un phénomène déterminant, mais pour les Maple Leafs, ça doit être réconfortant de savoir qu'au moins quelques centaines de personnes vont être là. C'est mieux que jouer encore une fois devant des gradins vides puis uniquement des toiles. Alors, c'est sur le plan psychologique, moi, je dirais que c'est un petit plus pour les Maple Leafs, mais pas de façon transcendante.
En tout cas, je trouve ça surprenant que cette décision-là nous arrive ce matin, parce que hier, pas plus tard qu'hier, on avait dit non. Et,
c'est vrai, hein?
Oui, et là, je pense que ce qu'on a vu au Centre Bell samedi soir a peut-être motivé les autorités de dire, ben, il faut qu'on leur donne un petit quelque chose, il faut qu'on permette au moins à quelques spectateurs, les chiffres sont quand même plus positifs en Ontario là, depuis quelques jours, mais comme Philippe le mentionne, c'est pas beaucoup, 500 quelques personnes. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire la différence dans le match de ce soir. Vous parliez de Carey Price. Pour moi, Carey Price, encore une fois, demeure la pierre angulaire du Canadien de Montréal. Tu sais, on dit souvent dans le monde du sport, est-ce qu'on est capable de mettre la switch à on instantanément? Normalement, c'est très, très, très difficile. Carey Price a connu une saison, disons, au-dessous des attentes, mais lorsque le moment est arrivé de montrer ses meilleurs efforts, il a été extraordinaire. C'est le meilleur joueur du Canadien de Montréal. Et si ce soir, il est capable de donner encore une fois à son équipe une chance de demeurer dans ce match-là, ben tout sera permis. Tout sera permis. Il faut juste pas que le Canadien tombe de l'arrière par plusieurs buts. Parce qu'on a vu que les Maple Leafs, eux, sont capables de combler des déficits de 2 buts, de 3 buts. Mais c'est pas le cas du Canadien.
Ça, c'est un très bon point. Sur la question du 550 personnes qui ont eu leur 2 doses de vaccin, Philippe, ça ressemble quand même à un début de passeport vaccinal, ça.
Oui, oui, ben ça ressemble à ça, très certainement. Tu sais, puis je sais pas la raison, mais hier, Isabelle, t'as sûrement vu là, que l'Ontario a procédé à un changement important, c'est-à-dire que le médecin-chef a changé, donc on s'en va vers une nouvelle direction. Ouais. La nouvelle personne qui est en charge est pas encore en plein exercice, mais est-ce qu'on l'a sondé? Est-ce qu'on lui a demandé un peu son opinion? Parce que je pense que ce docteur-là était en charge d'une région importante de l'Ontario, Kingston, de mémoire, là où il y a eu des bons résultats. Est-ce que lui a dit, ben écoutez, oui, on peut peut-être y aller, je ne sais pas. C'est potentiellement une hypothèse. Mmh. Mais oui, ça ressemble à un passeport. Puis tu sais, je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Là. On risque de s'en aller vers ça pour assister à des événements, que ce soit sportif ou culturel, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je regarde comment ça se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, à New York, par exemple, au Madison Square Garden. Ça prend une preuve avant d'entrer assister à un match, soit un test de COVID négatif réalisé dans les 3 jours précédant le match, ou encore une preuve de vaccination. Et si je ne me trompe pas, c'est même une vaccination complète. Ça veut dire quoi, vaccination complète? Ça veut dire non seulement 2 doses dans le cas des vaccins qui en nécessitent 2, mais ça veut dire 2 semaines après la deuxième dose pour que la deuxième dose ait eu le temps de produire son plein effet. Alors, tu sais, on voit que dans plusieurs régions, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais comme on en parlait la semaine dernière, Isabelle, c'est pas uniforme partout aux États-Unis. Chaque juridiction, il y en a que c'est beaucoup plus serré, il y en a que c'est beaucoup moins serré. Mais moi, je pense qu'on le voit déjà là, avec le fait qu'au Québec, le gouvernement, par exemple, nous envoie par texto là, un code QR si on a reçu une première dose de vaccin. Ben, si on nous envoie ça, c'est pas pour rien. Là, c'est que ça va servir un jour à quelque chose.
Mm-hmm. On a Sylvie au bout du fil. Bonjour Sylvie.
Salut, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Moi, qu'est-ce que je veux dire? Les Canadiens, ils pourraient gagner, mais j'ai peur au Premier League parce que l'autre fois, ils ont gagné 2 buts. Ils ont rentré 2 buts dans pas long. Fait que si les Canadiens ne se laisseraient pas faire, mais ils gagneraient parce que j'ai peur au Toronto parce qu'ils sont forts aussi.
Non, mais c'est sûr.
Mais psychologiquement, elle a absolument raison parce que moi, je regardais le match avec mon fils et il restait à peu près 15 minutes au match lorsque le Canadien a pris l'avance 2-0. Ouais. Et là, j'ai dit, regarde bien le nombre de tirs au filet chez le Canadien d'ici la fin du match. Ils en ont eu 2. Et en prolongation, deux autres seulement. Donc, les Maple Leafs, à partir du moment où ils sont à côté au pied du mur et ils sont obligés d'ouvrir la machine, ils sont capables de le faire. Ça, c'est la principale différence entre le Canadien et les Maple Leafs. Et elle a absolument raison de les craindre. Maintenant, il faut pas réveiller l'ours dormant, comme on dit. Idéalement, là, le Canadien, ce soir, ça reste 0-0 jusqu'à les 10 dernières secondes du match. Et là, le Canadien marque un but et c'est terminé. Et il n'y a pas de temps pour les Maple Leafs de revenir. Sans quoi, ça va être un match extrêmement difficile, faut le mentionner, c'est sûr.
Ah non, c'est sûr, ça va être enlevant, par exemple, ça va être passionnant. Bon, on va aller à la pause, on revient tout de suite après avec les commentaires de nos auditeurs. Dites-moi si pour ce 7e match Toronto-Montréal ce soir, vous êtes préparés, avez-vous monté les marches de l'oratoire à genoux, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y en a qui ont des rituels? Non, riez pas, il y en a qui ont des rituels. Bref, y croyez-vous que la Sainte Flanelle va être gagnante? S'ils perdent, s'ils gagnent, qu'est-ce qui va arriver par la suite? On a bien sûr nos analystes avec nous, Jérémy Filosa, Philippe Quentin. Vos commentaires au 514-790-9850 et un peu partout de l'extérieur sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Ambiance du Centre Bell, même si c'est pas là que ça va se faire ce soir, et non pas, pas à Montréal, ça va être à Toronto. Vous allez regarder ça, Stéphane, vous allez suivre ça, j'imagine. Bonjour.
Oh, OK, oui, bonjour.
On vous écoute là-dessus?
Ah, moi, je suis très satisfait de la performance des Canadiens. La seule chose qui me décourage un peu, c'est quand j'ai oué, là, ils passent la ligne rouge, puis ils se débarrassent tout de suite de la rondelle, puis ils passent la ligne rouge, puis on se débarrasse de la rondelle. Ça, c'était un peu décourageant. On a vu beaucoup ça dernièrement, là. Surtout en prolongation, le dernier match, là. Quand ils se mettent à faire ça, là, mes espoirs s'en vont, c'est pas long, là.
Oui, surtout en troisième période, hein. Des fois, on a l'impression qu'ils ont de la misère à toucher la puck au bout de leur bâton, mais ça, bon.
Oui, on dirait qu'ils sont plus capables, à un moment donné, là, de prendre le contrôle dans la zone offensive, là, puis de contrôler, puis...
C'est intéressant, ça. Je vais voir ce que Philippe et Jérémy en pensent. Merci, Stéphane. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour.
Allez-vous suivre ça?
Ah oui, je vais suivre ça attentivement, parce que vraiment, là, les Canadiens de Montréal, là, on s'entend, là, c'est comme notre emblème, là, hein?
Oui.
La ville de Montréal, on a le stade Mongeune, puis là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qui est en train de se faire là. Puis moi, je dis quand même à nos joueurs, là, prenez pas ça à légère. On a confiance en vous autres, là, mais donnez-les votre grand maximum, là, parce que ça, c'est des gentlemen de ce genre de jeu-là, puis on a la sauce de cette affaire-là, c'est vrai. Bon. Puis moi, ce que j'espère, là, c'est que tout le monde, là, qui va voir ça à la maison, dans le stade, n'importe où, n'importe comment, là, puis que les joueurs, là, ils vont prendre la piqûre qu'ils ont besoin de prendre. La piqûre, là, comme ils font les annonces à la radio, là, la piqûre de danse, la piqûre de COVID-19, ou encore l'autre piqûre, là, qui est garantie par Santé Canada. Ils ont créé, je sais pas si vous le saviez, vous demanderez ça à votre ami Maréchal, là, il y a un vaccin liquide qui est approuvé par Santé Canada, là, que tu peux mettre en dessous de la langue, ça s'appelle Équinamide. Puis il y en a plein d'autres vaccins au Canada.
Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci bien. On a Robert avec nous. Bonjour, Robert. J'ai eu de la misère à la fin, mais je sais plus ça, je comprenais. Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je pense que le Canadien pourrait gagner soit pour une des raisons, c'est que malgré le fait que Toronto a une meilleure offensive que Montréal. Toronto, à toutes les fois qu'il rouvre le jeu, Montréal le fait payer pour leur erreur. Puis je pense que ce qui arrive, c'est pour ça que c'est le bas pointage, c'est que les deux équipes ne veulent pas faire d'erreur. Si Canadien compte le premier but ce soir, Toronto va vouloir ouvrir la machine. Et c'est là que Canadien, à toutes les fois qu'ils font, Toronto fait une erreur, Canadien le fait payer cher.
OK. Donc vous, votre pronostic?
Moi, je pense que c'est ça que le Canadien va gagner, d'après moi, 2-1. Si Canadien compte le premier but, la machine va ouvrir, puis Toronto,
puis c'est là qu'ils causent des erreurs.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Qu'en pensent mes spécialistes, Jérémy Filosa et Philippe Quentin? Comment vous voyez ça?
C'est une bonne analyse, là, la dernière. Moi aussi, je suis assez à l'aise avec cette façon de voir le match. C'est vrai que le Canadien a été opportuniste pour profiter des erreurs des Leafs, mais c'est surtout toute la question du premier but. On le sait, en séries éliminatoires, c'est déterminant, le premier but. Mm. Et je pense que c'est encore plus déterminant quand c'est Carey Price qui est ton gardien. Parce que quand tu prends les devants 1-0 puis que Price est dans la zone dans laquelle il se trouve à l'heure actuelle, veut pas, ça donne un surplus d'énergie aux joueurs du Canadien et ça sème un doute dans l'esprit des joueurs des Maple Leafs. Parce que tu sais combien c'est difficile de déjouer Price. Encore une fois, les deux buts qu'il a donnés samedi, ce sont des rondelles qui ont dévié sur Jeff Petrie. Je pense que le but gagnant du Canadien aussi a dévié sur le défenseur des Maple Leafs. Mais tu sais, c'est souvent comme ça que se marquent les buts. C'est très difficile de battre Carey Price sur un lancer franc, un lancer direct. Ça arrive, il en a donné depuis le début de la série. Mais tu sais, il est tellement imposant devant son but. Puis, tu sais, en ouverture de segment, Isabelle, tu mentionnais quand il a fait ses arrêts avec le gant. Tu sais, notamment en prolongation. Il y avait un côté spectaculaire dans tout ça, mais il est vraiment allé cueillir ça comme un joueur de baseball qui capte la balle au premier but.
Je trouvais qu'il y avait une classe, même.
Et là, mets-toi dans la peau de l'adversaire. Tu vois ça. C'est pas un méchant lancé dans le haut du filet, à côté du gant, tout ça. Et là, tu vois Price qui va chercher la balle, vois-tu de la rondelle, avec tellement de facilité que veut pas, ça met un doute après dans l'esprit des joueurs adverses. Puis là, tu précipites peut-être un peu ton lancer, tu vises peut-être un petit peu trop le coin puis tu rates la cible. Tu sais, alors ça joue à plusieurs niveaux. Alors Price dans sa zone, c'est un avantage immense pour le Canadien.
Oui, effectivement. Jérémy?
Ben, écoutez, j'espère que le Canadien s'en va pas dans ce match-là en espérant gagner 1-0. Ça, c'est certain. Pour moi, un but, c'est pas suffisant. On va se dire, là, je pense pas qu'un but soit assez pour ébranler les Maple Leafs. C'est sûr que ça va leur mettre encore plus de pression. Mais comme on a vu samedi soir, moi, quand j'ai vu le Canadien à 2-0, j'ai dit, c'est pas assez. C'est pas assez. Contrairement à ce que l'auditeur nous mentionnait, c'est sûr que quand tu ouvres le jeu, tu t'exposes à faire des erreurs. Mais ce qu'on a vu plus souvent qu'autrement, c'est quand les Leafs vraiment ouvrent la machine, le Canadien n'y peut rien. Ça s'est adonné que Kotkaniemi a tiré, puis ça a dévié, puis ça s'est retrouvé dans le filet. Mais on peut pas s'attendre à faire ça match après match.
C'était de la chance, d'après toi?
C'est sûr qu'il y a un élément de chance. En séries éliminatoires, il y a toujours un élément de chance. J'ai dit après le match, quand Kotkaniemi a marqué, je vais vous prendre un 6-49. Écoutez, ça faisait 4 tirs. Ça faisait 4 tirs que le Canadien faisait en 30 minutes de jeu, alors que les Maple Leafs bombardaient la cage du Canadien. Il n'y a rien qui rentrait. On effectue un tir. Déviation, ça se retrouve dans le fond du filet. Donc oui, il y a un élément de chance, mais il faut pas compter sur l'élément de chance. Faut jouer à notre meilleur et surtout ne pas se laisser déconcentrer quand les vagues les plus intenses arrivent là, de la part des Maple Leafs.
On a beaucoup parlé, là, les experts comme vous disaient en fin de semaine, c'est beaucoup Carey Price aussi qui a donné le ton en disant « Moi, je fais confiance à cette équipe-là, Philippe. C'est lui le vrai leader, tu dirais, c'est lui le... »
Et c'est drôle, hein, je pense que personne a fait le rapprochement, mais quand il a dit ça puis qu'il a dit « Écoutez, on est capable de gagner, j'ai confiance », ça m'a rappelé les propos d'un autre grand gardien de but du Canadien, c'est Patrick Roy en 1993, la dernière année où le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Si vous vous souvenez, la première série opposait le Canadien aux Nordiques et les Nordiques avaient toute une équipe cette année-là avec Sakic, Sundin, puis c'était extraordinaire comme potentiel offensif. Et les Nordiques gagnent les deux premiers matchs à Québec, c'est 2-0. Et là, on arrive à Montréal pour la troisième rencontre et avant cette rencontre-là, dans le jour qui a précédé, Patrick Roy a fait une déclaration qui a fait le tour de la ville. Il a dit « Je pense qu'on respecte trop les Nordiques. On n'arrête pas d'admirer Sakic puis Sundin, alors que nous autres aussi, on a des bons joueurs. Nous autres aussi, on a des grands joueurs. Puis on devrait commencer à se le dire au lieu de toujours admirer les Nordiques. » Et j'ai trouvé que Price, sans évidemment employer les mêmes mots, puis il n'y a pas la verve d'un Patrick Roy, là, mais il a dit essentiellement la même chose. C'est qu'il a dit « Moi, j'ai confiance à mon équipe. » Puis, tu sais, au lieu de toujours s'émerveiller devant les qualités de l'adversaire, regardons ce que nous, on est capable de faire. Et j'ai l'impression que ces mots-là ont porté comme ils ont porté en 1993.
Ah oui, c'est possible, oui.
Sauf qu'on n'a pas de Paul Di Pietro cette année, c'est ça la différence.
On a Michel, par exemple. On a Michel. Bonjour, Michel. Vous y croyez-vous à la victoire du CH ce soir?
Oui, j'y crois. Okay. Raison de plus, parce que Jake Muzzin n'est pas là ce soir.
C'est vrai.
Ah!
un bon défenseur de Toronto. Ça va peut-être.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est
ça. Va peut-être changer la stratégie des Maple Leafs, plus réservé à l'attaque, parce qu'on va manquer un bon défenseur.
C'est une grosse perte pour les Maple Leafs. Jake Muzzin qui s'est blessé à l'aine dans le dernier match, et même s'il allait jouer ce soir, il n'allait sûrement pas être aussi efficace, mais c'est le numéro 3 des défenseurs des Maple Leafs. Et il a donné toutes sortes de fil à retordre aux Canadiens depuis le début de la série. Donc, en plus de Tavares, Jake Muzzin n'est pas là. C'est un autre gros morceau, et c'est sûr que c'est avantage le Canadien.
Ouais. On a Marc-André avec nous. Bonjour.
Bonjour. Jérémy, je vais parler à Jérémy parce que il dit qu'on est chanceux d'avoir eu un but. Mais combien de fois j'ai vu des buts, des Maple Leafs déviés devant Carey Price, puis c'était des buts chanceux. Il y en a eu au moins 4-5 là, depuis la série.
Oui, mais à un moment donné, c'est des mathématiques aussi. Plus tu tires, plus que tu as de chance à un moment donné qu'il y en ait une qui dévie puis qui rentre. Quand tu as pris quatre tirs en 30 minutes, puis il y en a une qui s'adonne à avoir dévié puis à être rentrée dans le filet, comme j'ai dit tantôt, moi, vous prendre un 6,49.
Ouais.
Les mathématiques font en sorte que à un certain moment donné, ça peut pas toujours pencher de ce côté-là. Mm. C'est ça la réalité. Là.
Ouais. Dites-moi, on a beaucoup parlé du sort de Marc Bergevin, surtout au début de cette série où c'était vraiment loin d'être gagné, puis on l'avait... Hein, Philippe, on s'en est parlé. Oui. On se disait il y a peut-être même des rumeurs qui feraient en sorte que ce serait pour lui le peut-être la fin avec le Canadien. Mais là, s'il gagne, là, ça, on oublie ça, cette conversation.
Oui, ouais, ben, je pense que oui. Je serais étonné à ce moment-là qu'il y ait un changement parce qu'il y aurait de la progression au sein de l'équipe. Tu sais, ça fait depuis 2015 que le Canadien n'a pas gagné une série éliminatoire.
Puis s'il ne gagne pas ce soir, ils sont rendus en 7. Là,
c'est ça. C'est pas perdre comme en 5 matchs et puis tu es éliminé rapidement. Puis bon, l'affaire est entendue net frais de sexe. C'est une autre dimension. Maintenant... même si Bergevin reste, je pense pas que ça veut dire que tous les problèmes du Canadien sont réglés. Tu sais, on en a parlé abondamment. Je pense que c'est une équipe qui ça donne des résultats, mais c'est quand même un peu drôlement construit, changement d'identité. Avant, c'était une équipe très, très rapide. Maintenant, c'est une équipe où on mise plus sur des gros gars en défense. Il y a quand même des trous dans l'alignement. Puis, tu sais, je veux bien, moi, le but de Kotkaniemi, puis Suzuki et tout, mais je pense que tous ces joueurs-là ont encore beaucoup de choses à démontrer. Là, pour prouver qu'ils ont vraiment la capacité d'être des centres numéro 1 et 2, là, je pense, de Suzuki et Kotkaniemi dans la Ligue nationale. Je pense pas que cette démonstration-là est faite encore. Mais c'est sûr que si Bergevin veut rester et que le Canadien gagne la première série, c'est une business de résultats, Isabelle. C'est une business de résultats. Si tu as des résultats, tu as des arguments pour rester. Si tu n'as pas de résultats, tu en as pas mal moins.
Oui, c'est ça. Là, ils s'en vont. Mettons qu'ils gagnent ce soir. Qu'est-ce qui arrive, Jérémy?
Ben, écoutez, on n'a pas encore l'horaire des matchs de la prochaine série, mais étant donné qu'aux États-Unis, les deuxièmes rondes sont déjà débutées, je pense pas qu'on va perdre beaucoup de temps. Là. Je pense qu'on va peut-être donner aux Canadiens deux journées de congé, peut-être mardi, mercredi. Dès jeudi, ça devrait reprendre à Winnipeg. D'ailleurs, ce qu'on entend,
c'est Winnipeg mercredi, apparemment.
Ah bon, écoutez, donc moi je pense que c'est un net désavantage. Honnêtement, je suis vraiment pas d'accord de la façon dont la Ligue nationale a fait son calendrier des séries éliminatoires. Souvenez-vous, on a repoussé d'une semaine le début de la série dans la division canadienne parce que les Flames et Vancouver devaient jouer des matchs de fin de saison qui ne comptaient même plus. Et là, ça fait en sorte que la fatigue va s'accumuler. Ça veut dire qu'on va avoir une soirée, puis dès on va repartir tout de suite. Les deux équipes canadiennes de la division canadiennes sont les seules séries où on a joué des matchs sur deux soirées consécutives au premier tour. Ouais. Éventuellement, ça va rattraper l'équipe canadienne qui va sortir de cette division-là. Moi, je trouve ça vraiment pas correct.
Mais très
ça,
c'est bon point, parce que, tu sais, prenons par exemple les Golden Knights de Vegas. Vendredi, ils ont gagné leur série contre Minnesota en 7 matchs. Mmh. Et là, ils affrontent dans le tour suivant, deux jours plus tard, l'Avalanche du Colorado. Première rencontre, Colorado qui était en congé depuis plusieurs jours. Ça finit 7-1 pour Colorado hier. Exact. Alors, tu sais, c'est le désavantage pour l'équipe qui va sortir gagnante de la confrontation Toronto-Montréal face à Winnipeg pour le début de la série. C'est un gros, gros désavantage.
Ouais. Ben, merci beaucoup tous les deux. Très apprécié. Jérémy Filosa, journaliste sportif au 98.5. Merci beaucoup. Philippe, merci d'avoir été là. Philippe Quentin.
Merci Isabelle. Salut
ça.
Philo.
Si vous voulez suivre ça sur les ondes du 98.5, c'est bien sûr l'émission d'avant-match qui est à 18h30 et la game qui suit après. Nous, on s'arrête ici. Très courte pause. Nathalie Simard est avec nous tout de suite après ceci.